Radio France Internationale, 13h en temps universel, 15h ici à Paris. Je cède le micro avec plaisir à Gilles Moreau pour un nouveau journal. Bonjour Gilles.
Plaisir partagé, bonjour Nicolas. Dans l'actualité, une foule rassemblée sur la place Saint-Pierre de Rome pour célébrer Pâques et voir le pape François, toujours convalescent. Le pape est apparu pour donner sa traditionnelle bénédiction, dénonçant en particulier la situation à Gaza. Gaza où les Palestiniens font état de 25 morts dans les dernières frappes israéliennes. L'Ukraine accuse les forces russes de poursuivre les attaques malgré le cessez-le-feu promis par Vladimir Poutine le temps des fêtes de Pâques. De son côté, la Russie dit avoir repoussé des attaques nocturnes. Aux États-Unis, revers juridique pour la Maison-Blanche, la Cour suprême a ordonné de suspendre l'expulsion d'un groupe d'immigrés vénézuéliens. Le pape François a participé à la célébration de Pâques ce matin, place Saint-Pierre de Rome. S'il n'a pas célébré la messe pascale, le souverain pontife a donné sa traditionnelle bénédiction aux fidèles Urbi et Orbi. Des fidèles venus en nombre pour le voir toujours très affaibli, mais qui s'est offert un bain de foule. François avait délégué à un collaborateur la lecture de son texte appelant au respect de la liberté de pensée et d'expression et dénonçant la situation humanitaire à Gaza. Un extrait.
Préoccupa. Le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier est préoccupant. En même temps, mes pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction, ainsi que de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J'en appelle aux belligérants, cessez le feu, que les otages soient libérés et que l'aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix.
Et pendant que le pape, donc par la voix d'un collaborateur, se préoccupe de la situation à Gaza, sur place, le déchaînement de violence se poursuit. La défense civile palestinienne fait état de 25 morts, y compris des femmes et des enfants, dans les frappes israéliennes ce dimanche. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit déterminé à continuer la guerre. Pour lui, seule une pression militaire permettra le retour de tous les otages. C'est une coïncidence rare dans le monde de la chrétienté. Cette année, les fêtes de Pâques sont célébrées le même jour chez des catholiques et chez les orthodoxes. D'habitude, la résurrection du Christ est commémorée avec plusieurs jours d'écart en raison du décalage entre les calendriers julien et géorgien, écart que le pape François aimerait supprimer. Les discussions entre catholiques et orthodoxes s'annoncent plutôt difficiles sur un sujet qui les divise depuis plusieurs siècles. Daniel Valo.
C'est à l'occasion d'une concordance exceptionnelle des calendriers que cette année, les chrétiens du monde entier célèbrent Pâques le même jour. Car depuis 1582 et l'adoption d'un nouveau calendrier par le pape Grégoire XIII, les catholiques et les orthodoxes commémorent la résurrection du Christ avec un écart pouvant aller de quelques jours jusqu'à plusieurs semaines. Une situation qualifiée de ridicule par le pape François, qui a plusieurs fois émis le souhait d'en finir avec cet écart de calendrier. Avant ses ennuis de santé, le chef de l'Église catholique avait remis le sujet à l'ordre du jour en estimant propice l'année 2025. Cette coïncidence doit nous servir de signal, avait-il ainsi déclaré quelques jours avant d'être hospitalisé. Les discussions, si elles devaient s'ouvrir, se heurteraient cependant à la complexité du sujet qui a toujours suscité la polémique au sein des églises, mais aussi à la division du monde orthodoxe, encore accrue depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.
Explication signée Daniel Valo. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce la poursuite des attaques russes malgré le cessez-le-feu décrété hier par Vladimir Poutine. Les alertes aériennes ont repris en Ukraine où les autorités qui s'étaient engagées à respecter le cessez-le-feu ont dénoncé sa violation. De son côté, la Russie dit avoir repoussé des attaques nocturnes de l'Ukraine. Aux États-Unis, nouveau contretemps pour l'administration Trump sur le terrain du droit. La Cour suprême, la plus haute juridiction américaine, a décidé de suspendre l'expulsion manu militari d'un groupe d'immigrés vénézuéliens. Pour ce faire, l'exécutif se prévalait d'une loi, jusqu'alors utilisée uniquement en temps de guerre. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump alerte sur, je cite, l'invasion du pays par des criminels venus de l'étranger. Son bras de fer avec le président colombien Gustavo Petro se poursuit. Celui-ci réclame le retour de ses ressortissants incarcérés au Salvador. Il a dit à son homologue salvadorien, un allié de fait de Donald Trump dans sa politique migratoire. Gustavo Petro est particulièrement actif contre les expulsions violentes dans des pays tiers auxquels procède l'administration Trump. Il s'appuie, Nicolas Rocca, sur la décision rendue par la Cour suprême.
Oui Gilles, rendez-nous les Colombiens qui sont dans vos prisons, a exigé dans une longue publication sur X Gustavo Petro. Le président colombien cite le verdict qu'il qualifie d'universel de la Cour suprême des États-Unis. Celui-ci bloque jusqu'à nouvel ordre l'expulsion d'immigrés vénézuéliens. Pour parvenir à appliquer sa politique migratoire, Donald Trump avait réactivé une loi de 1798 utilisée jusqu'ici seulement en temps de guerre pour envoyer au Salvador plus de 250 personnes déclarées ennemies de l'étranger pour leur appartenance supposée à un gang Tren de Aragua. Cette organisation criminelle venue du Venezuela opère aussi en Colombie et parmi les hommes expulsés, tous n'ont pas de lien établi avec le gang, mais ils devront tous passer au moins une année dans une prison ultra sécurisée au Salvador, le centre de confinement contre le terrorisme sous le feu des critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Il s'agit d'un complexe tentaculaire de béton et de barbelés construit par le président salvadorien Nayib Bukele pour détenir les pires criminels de son pays avant d'emprisonner aussi les migrants que Donald Trump est parvenu à expulser.
Explication plutôt de Nicolas Rocca. Merci à vous. En République démocratique du Congo, les activités du parti de Joseph Kabila sont suspendues sur ordre des autorités. Elles accusent l'ancien président de garder un silence complice face au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda dans l'est du pays. L'ordre de suspension du ministère de l'Intérieur vise les activités sur tout le territoire du PPRD. C'est le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et maintenant, cette visite très attendue côté britannique. Le président français Emmanuel Macron doit se rendre au Royaume-Uni fin mai. Sa visite d'État précédera de plusieurs mois celle que doit faire le président américain Donald Trump. Explication à Londres de Sidonie Gaucher.
Une invitation diplomatique qui a peut-être des allures de message personnel. Selon le Sunday Times, le roi Charles aurait lui-même invité Emmanuel Macron à venir fin mai. Ils ne se sont rencontrés qu'en France. Le président français va donc bénéficier de sa première visite d'État officiel depuis son arrivée à l'Élysée il y a 8 ans, et ce, avant le président américain pour qui c'est prévu en septembre. Une situation délicate car le gouvernement travailliste cherche à resserrer ses liens avec l'Europe sans renoncer au partenariat avec les États-Unis. D'ailleurs, côté commerce, la chancelière britannique Rachel Reeves se rendra à Washington pour évoquer les taxes de 10% sur les importations annoncées par Trump. Enfin, sur le terrain diplomatique, le président Macron et le premier ministre Keir Starmer renforcent leur alliance militaire en soutien à une future paix en Ukraine. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
À la Réunion, île française de l'océan Indien, les autorités sanitaires réclament l'envoi de renforts médicaux pour faire face à un pic de l'épidémie de chikungunya, épidémie qui a déjà fait 6 morts sur l'île. Direction maintenant l'Italie, où l'interprète de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement, se confond en excuses dans la presse du jour. Cela ne m'était jamais arrivé, dit-elle. Je suis surtout désolée de ne pas avoir été utile. Elle déplore l'incident survenu jeudi à la Maison-Blanche. C'était lors d'une rencontre entre Donald Trump et Giorgia Meloni. Grégoire Motte.
Dans cet extrait, on entend la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Elle coupe la parole à Valentina Maiolini-Rodbacher, son interprète, en pleine interview avec Donald Trump. La scène se passe dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, devant un parterre de journalistes. Depuis plusieurs dizaines de secondes, l'interprète bafouille, consulte compulsivement ses notes, panique et n'arrive pas à traduire au président américain la question d'un journaliste italien. Excédée, Giorgia Meloni lève les yeux au ciel et finit par reprendre la main. Elle traduit elle-même la question à Donald Trump. Ce qui s'est passé est la pire chose qui puisse arriver à un interprète, a déclaré Valentina Maiolini. La présidente Meloni a eu raison de m'interrompre, poursuit celle qui est pourtant chevronnée. Elle a déjà couvert des événements comme le G7 et le G20. Piste d'explication pour cette sortie de route, sa première fois à la Maison Blanche et l'ambiance ambiance très bruyante du bureau ovale, les journalistes italiens rivalisant de cris pour poser leurs questions à Donald Trump.
C'était Grégoire Motte. Enfin, la NASA annonce que le jour même de ses 70 ans, l'astronaute américain Donald Petit est de retour sur Terre et avec lui deux cosmonautes russes. Tous trois sont de retour après 7 mois passés dans l'espace à bord de la Station Spatiale Internationale. À suivre sur RFI, si loin, si proche. Très bonne journée. Il est pratiquement 15h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.